journée que tu nous as accordée. Merci de nous convoquer auprès de ta parole pour pouvoir nous enseigner et nous dire comment est-ce que nous devons nous comporter pour être agréable à toi. Seigneur, nous voulons te remettre à cette réunion de toi, que par ton Saint-Esprit, tu viennes nous et que tout ce qui va t'être enseigné puisse vraiment trouver dans notre cœur une terre fertile et que cela puisse germer, porter beaucoup de fruits. Je remets le modérateur afin que toi-même tu l'inspires, que tu mettes ta parole dans sa bouche, que cela puisse nous faire beaucoup de fruits. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la prière, ma sœur Béné. Nous allons maintenant écouter la lecture dans le livre de Romains au chapitre 6. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 11e. Frémeda, tu peux nous lire les textes, s'il te plaît.
Oui, merci, pasteur Célé, pour la parole. Nous allons lire dans le second. La grâce, loin d'autoriser le péché, délivre de l'empire du péché. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la lecture, Frère Médard. Si vous êtes connecté en retard, nous venions d'écouter la lecture dans le livre de Romains, au chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 11e. Paul nous rappelle encore dans ce texte combien la mort de notre Seigneur Jésus a eu une très grande importance sur l'humanité, mais aussi, surtout, ceux qui vont accepter cette mort pour leur vie. Et pas seulement s'arrêter à la mort, mais la résurrection s'en est suivie. Donc, le baptême par immersion symbolise la mort, mais aussi la résurrection. Quand on est plongé dans l'eau, dans le baptême, on meurt avec Christ, mais quand on en sort, on est ressuscité avec Christ. Et la conséquence, c'est que le péché n'a plus de pouvoir sur la vie du croyant. Au contraire, il doit vivre pour au Christ. Le verset 7, dans la version Parole vivante, nous dit « Est mort, une personne morte, est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité, le mal a beau l'appeler, il ne répond plus, tout simplement, parce que c'est un cadavre, il est mort. » Le mal n'a plus de règne sur sa vie. Au contraire, c'est la vie de Christ qui vient s'installer dans sa vie. Voilà, frères et sœurs, un texte. Nous allons aller avec ce texte verset par verset. pour vraiment en tirer au maximum, surtout les moments que nous venions de passer, de commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous avons été suffisamment instruits dans nos églises, au sein des FIMES, dans la méditation personnelle, mais là, nous continuons à être vraiment instruits. Qu'est-ce que cette mort signifie? Qu'est-ce que la résurrection signifie? Et combien cela peut avoir une influence, une grande influence dans la vie de l'enfant de Dieu que nous sommes. Trois questions nous ont été posées pour approfondir ce texte. De quoi ou de qui parle le texte? Donc là, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? C'est la deuxième question. Et notre question de tous les jours, la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le texte? Voilà, frères et sœurs, nous pouvons maintenant commencer à demander la parole pour réellement nous édifier, voir est-ce que nous allons-nous continuer à pécher parce que nous vivons dans la grâce. La réponse est dans le texte. Voilà, nous pouvons commencer avec le pasteur José. Tu as la parole.
Oui, pasteur, merci. Frères et sœurs, je suis au premier verset, mais permettez que je rentre au verset 20 et 21, surtout 21, très rapidement. Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même, la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le verset 1 du chapitre 6 continue avec deux questions. Que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché? Que la grâce de Dieu soit plus abondante. Bien-aimés, la grâce et le péché. Le péché a amené la mort. Et la grâce de Dieu par Jésus nous a donné la vie. La grâce est venue là où il y avait des péchés, elle est venue là où il y avait des péchés. Alors, ce qui fait que la grâce a pris la place du péché dans le cœur du croyant, il ne peut pas avoir lieu le péché et la grâce. Parce que la grâce est venue. Il est venu pour prendre la place du péché. Donc, bien-aimés, non. Nous avons reçu la grâce. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché. Le péché est caduque. Le péché n'est plus. N'a plus de place, n'a plus de force, parce que la grâce est venue. Merci.
Oui, le péché ne doit plus régner. Au contraire, c'est la vie de Dieu qui doit régner dans la plénitude. La question a effectivement été posée. Merci, papa José. Au verset premier, allons-nous continuer à vivre dans toutes sortes de désordres, toutes sortes de vies déréglées, parce que nous vivons dans la grâce, sous la grâce, sous la grâce, la réponse à cette question a été non. Au verset 2. Certes, non. Pourquoi? Puisque nous sommes morts déjà au péché. Nous n'existons plus pour lui. Voilà comment la parole vivante traduit. Nous n'existons plus pour le péché. Et parce que nous n'existons plus pour lui, comment pourrions-nous vivre encore sous son empire? Comment allons-nous laisser le péché nous dominer au point où on nous dit de pardonner, nous disons non. On nous dit d'aimer, non. On nous dit de faire tout ce que Dieu veut que nous fassions, nous disons non, tout simplement, parce que nous voulons laisser le péché régner sur notre vie. Mais le premier et le deuxième verset nous enseignent que nous n'existons plus pour lui. Pour le péché, nous n'existons plus. Nous sommes morts. Et c'est là que nous allons voir plus en détail au verset 3. Pourquoi nous n'existons plus? Qui peut prendre le verset 3, s'il vous plaît? Je ne vois pas de demande de parole jusqu'à présent. Le verset 3, oui, tu peux aller, papa José.
Merci beaucoup, pasteur. Nous avons encore... question. Dans ce verset, le troisième. Tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Vous ne savez pas cela? C'est une question. Oui, si nous ne savions pas, nous devons savoir maintenant que nous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés étant associés à sa mort. Donc, notre baptême, pas avec la mort du Seigneur. Le modérateur a parlé du baptême par immersion, c'est-à-dire le baptême qui nous montre qu'il faut plonger le croyant Jésus dans l'eau, comme Jésus lui-même l'a été. Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau et l'a remis debout. Et tout le monde qui passait par Jean-Baptiste a connu cet acte-là. Nous aussi, nous avons été baptisés, je ne sais pas pour quelques-uns parmi nous, mais ceux qui ont grandi dans les églises protestantes, ce qu'on appelle les traditionnelles, c'est ces baptêmes-là. Et d'ailleurs, le mot baptême veut dire plonger. Donc, si on a été baptisé par quelques gouttes d'eau, on n'a pas été plongé. On a reçu quelques gouttes d'eau. Je ne dis pas que ce baptême de gouttes d'eau n'est pas valide, non, je ne dis pas ça. Mais ce que je dis est que le baptême doit passer par immersion. Alors, quand on nous plonge dans l'eau, nous sommes morts avec le Seigneur. Et quand on nous remet debout, nous sommes ressuscités par le Seigneur. C'est pourquoi on nous parle de avait été baptisé péché en étant associé à sa mort. C'est ça. Nous avons été associés à la mort de Jésus par le baptême. Donc, c'est quelque chose de sérieux, bien-aimé. Si jusque-là nous prenions notre baptême comme étant un signe qui n'a pas de valeur, non, aujourd'hui, nous devons savoir que le baptême a une valeur spirituelle très, très profonde. Parce que nous sommes associés par le baptême avec la mort du Seigneur. Merci.
Oui, merci, Papa José. Nous sommes associés à la mort du Seigneur par le baptême. Et le mot baptême signifie plonger dans. Quand on a été baptisé, c'est qu'on a été. C'est pour cela que la version parole vivante va même nous dire que auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché. Ils ont signé un acte de mort au péché. Et ils ont été immergés en Jésus-Christ, donc par le baptême, nous avons été plongés en sa mort. Donc, allusion faite, l'Église primitive pratiquait le baptême par immersion. On plonge totalement dans l'eau, ce que vous êtes associé à la mort, et quand on vous sort, on vous ressuscite avec lui. Donc, c'est une dimension spirituelle immense, le baptême. Voilà, là, nous sommes au verset 3. Nous pouvons encore, les trois premiers versets, dire un mot là-dessus, mais si nous pouvons prendre le verset 4, nous pouvons continuer à aller de l'avant. Voilà, Papa Gaston, tu as la parole.
Merci, pasteur. Je suis au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Je suis interpellé parce que je comprends la valeur du baptême et pourquoi même Christ Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Parce que il devait prendre les péchés de toute l'humanité dans son corps. Et je ne peux pas plaire à Dieu si je n'ai jamais accepté la mort dans ma vie, si je n'ai jamais accepté de mourir. Je ne peux pas commencer une nouvelle vie si je n'ai pas renoncé à l'ancienne vie. L'ancienne vie, celle du péché. L'ancienne vie, là où c'est moi qui trônais à la place d'autorité de ma vie. C'est ce que Christ a fait pour toute l'humanité. Et moi, quand je suis passé par le baptême, j'ai dit à Jésus, j'accepte, je laisse tout, je meurs et que tu vives maintenant ta vie de sainteté à moi. Je vois cette valeur du baptême et je comprends pourquoi je devais passer par ce baptême. Et ça m'interpelle et quand je rencontre des amis et les intéressés à ceux-là qui n'ont pas encore passé par ce baptême-là, de les faire. De telle sorte que quand le péché, il y a quelque chose qui me pousse, je dis non, moi, je suis déjà mort. C'est comme un frère qui nous disait, il sentait en lui quelque chose aller voler de l'argent, mais il dit, bon, toi tu me pousses, moi je refuse parce que je suis déjà mort. Les pieds, si tu veux marcher, marche, mais moi je ne pars pas. Il reste à ses places parce que je suis déjà mort. Je vis maintenant pour Christ. Et ainsi, il manifestait cette nouveauté de vie dans sa vie, parce qu'il a déjà accepté, il a consenti à ce que sa vie ancienne meure et que lui, il vive maintenant la nouveauté de vie. C'est ce qui m'a interpellé, cette importance, baptême, pourquoi Christ est passé par là et pourquoi je dois toujours me souvenir de ce baptême-là. Quand je m'en souviens, je ne vais plus faire des caprices de l'ancienne vie, mais je vais chercher la nouveauté de vie qui est identifiée en Jésus-Christ. Amen.
Amen. En tout cas, merci beaucoup, Gaston, de parler de cette je peux rapidement mettre quelques personnes en mute qui font du bruit sans tenir compte que cela passe dans notre enregistrement. Donc, je reviens au verset 4 avec ce que le frère Gaston venait de nous commenter. Deux éléments se dégagent très nets. Le passé, le présent et le futur. Le passé, au travers le baptême, a été enseveli, enterré. Voilà pourquoi quand on est plongé dans l'eau, on s'associe vraiment à la mort, comment a été enterré. Mais aussi, dans le même verset, nous voyons la résurrection en nous disant, mais vous savez aussi que Christ a été ressuscité d'entre les morts. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Donc, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, enterrées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà, merci beaucoup. Nous continuons. Nous arrivons au verset 5. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous prendre le verset 5 pour le commenter, s'il vous plaît? Voilà, le verset 5, est-ce que c'est Maman Rose qui demande la parole?
Merci beaucoup pour la parole. En effet, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi. Par la conformité à sa mort. Là, je ne savais pas que j'étais devenue une même plante avec lui, avec Christ. Oui. J'avais dit ça l'après-midi, là. Moi, d'abord, j'avais cette habitude de dire chaque fois. Donc, quand on me demande « pardonne quelqu'un qui t'a fait du mal », je ne voulais pas, j'ai dit trop, c'est trop. Est-ce que c'est moi qui est mort à la croix de Golgotha à cause d'eux que je dois le supporter? Je ne voulais pas. Chaque fois qu'on me disait pardonne, je ne voulais pas pardonner tellement. Quand j'avais mal dans mon cœur, je ne voulais pas pardonner. Je disais toujours non, je ne peux pas parce que ce n'est pas moi, Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, Jésus, qui est mort à la croix de Golgotha à cause d'eux. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit aujourd'hui que je suis devenue une même plante avec lui. Donc, je dois marcher comme Christ a marché sur terre. Amen. Je dois avoir la crainte de l'Éternel. Voilà. Et je peux prendre le verset 6 aussi, pasteur?
Oui, tu peux y aller si tu as quelque chose à dire, il n'y a pas de problème.
Oui. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Moi, je ne peux plus être esclave du péché. Je ne peux pas. Un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise Sans le péché, un enfant de Dieu ne peut plus pécher parce qu'il est mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Comment je dois être à l'aise quand je pêche? Comment je dois être à l'aise? Le Saint-Esprit est là, un enfant de Dieu, chacun enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vous parle. Tu fais ça, ce n'est pas bon. Répentez-vous. Demande pardon. C'est ça, vivre la vie de sanctification, vivre, avoir la crainte de l'Éternel. Fuir le péché, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit fait son travail, nuit et jour, tous les jours, à tout moment, il fait son travail. Il s'occupe des enfants de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Amen.
Merci beaucoup, amen. Merci pour ta contribution, maman Rose. Le verset 5, le verset 6, nous sommes vraiment devenus une même plante. Et d'autres versions... D'autres versions vont même jusqu'à dire que nous sommes devenus une... nous avons été greffés. Comme on prend une plante, on vient greffer à une autre et la plante continue à pousser, continue à porter du fruit. C'est de la même manière que le chrétien, la chrétienne. Nous avons été vraiment incorporés dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et donc, nous avons été implantés dans sa mort, mais aussi dans la résurrection. Nous avons notre part de revivre comme lui, comme il a été ressuscité. Merci beaucoup. Même la nouveauté de vie, la puissance du péché qui est neutralisée dans l'enfant de Dieu. Merci. Nous continuons. Ah, José, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Oui, pasteur. Je reviens sur le mot résurrection trouvé au verset 5. Nous serons également unis en lui par une résurrection semblable à la sienne. Oui. Bien-aimé, la résurrection de croyants doit être comprise en deux temps. Le premier temps, quand nous acceptons le Seigneur, nous sommes baptisés, Christ vit en nous par son esprit, nous sommes spirituellement ressuscités. Nous qui sommes là, si réellement nous avons reçu le Seigneur, nous avons été ressuscités. Nous marchons ici en étant déjà sur le plan spirituel ressuscité. Le deuxième temps, c'est lorsque nous mourons et le Seigneur vient. Le Seigneur nous ressuscite. À ce moment-là, il y a la résurrection physique. La résurrection physique. Parce que notre esprit, spirituellement, nous étions déjà ressuscités. Donc, nous attendons la résurrection finale parce que nous avons été ressuscités. Déjà, là où nous sommes, nous parlons en tant que des ressuscités en Jésus. Et nous continuons, nous prions Dieu de nous accorder toujours sa grâce pour que nous puissions maintenir notre résurrection en attendant la résurrection finale, quand le Fils de l'homme va revenir. Merci.
Oui, merci. Eh bien, Papa José, la résurrection finale est promise à ceux qui seront en Christ vivant quand le Seigneur va revenir, mais elle est aussi promise à ceux qui sont morts en Christ. Ils ressusciteront les premiers pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais en tant que vivants présents, nous vivons déjà les effets de la résurrection parce que nous ne devons plus, comme la fin du verset 6, nous ne devons plus obéir comme des esclaves aux sollicitations du péché. Donc nous devons, le Saint-Esprit, comme ma sœur Rose était en train de dire, joue un rôle important pour nous montrer que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Il nous fait manquer de paix, il nous fait manquer de joie, ainsi de suite. Mais nous ne devons plus vivre comme esclaves du péché aussi longtemps que nous nous sommes associés à Christ pour prendre vraiment sa vie, pour enterrer la vie passée qui est la vie du péché et prendre une vie nouvelle qui est une vie en nouveauté avec Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, si vous êtes connectés en retard, que ce soit à la radio ou sur le plateau de Fimes, nous sommes en Romains au chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 11e. Nous arrivons au verset 7. Il y a une personne qui aimerait commenter le verset 7. Elle peut toujours faire la demande. Est mort. Voilà, je donne la parole au frère Thomas qui n'a pas encore parlé.
Oui, en parlant du verset 7, je vois que souvent la Bible dit que le chrétien, il est mort au péché. Et c'est vrai. Le même Paul va dire aux Colossiens, chapitre 3, il va dire aux gens que oui, nous les chrétiens, nous sommes morts. Quand le Christ est mort à la croix, effectivement, nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Mais moi, j'ai vu des cadavres, j'ai vu des morts. Quelqu'un meurt et j'ai vu que on doit lui mettre les habits, on doit laver le corps, on doit mettre le... Il ne réagit pas. La personne ne dit pas qu'il fallait le pantalon ici et pas l'autre. Non, non. Le corps est là, donc il tombe. Si nous le laissons comme ça, sans y mettre des habits, il va rester comme ça. Parce que c'était mort, ça n'a pas de volonté, rien, ça ne réagit pas aux soins, aux sentiments, aux choix. Le corps ne participe pas à des préférences, rien, parce que c'est mort. Donc le chrétien, quand Paul va dire que nous sommes morts, cela veut dire que je dois être insensible aux sollicitations du monde. Je dois être considéré comme mort au péché, c'est-à-dire le monde ne me dit plus rien, le plaisir du péché ne me dit plus rien, mais je vis par rapport au Christ, la nouveauté de vie dont parle le verset 4. C'est une nouvelle vie que Dieu développe à moi, que les gens vont voir à moi. Mais vis-à-vis du monde, vis-à-vis des tentations, vis-à-vis de ces choses du monde, en principe, je dois être comme mort. C'est-à-dire que je suis transformé, j'ai des désirs vis-à-vis du monde qui sont morts pour maintenant prendre la nouvelle vie qui est en Christ. Parce que nous sommes morts au péché, mais maintenant vivants en Jésus-Christ. Merci.
Merci beaucoup, papa Thomas. Nous sommes morts. Nous avons même été, à cause de cette mort, déclarés justes. Nous avons été déclarés justes. Et ce que papa Thomas disait tout à l'heure, c'est tellement important que nous devons devenir de plus en plus insensibles aux sollicitations du péché. Alors cela exige une grande discipline. Une discipline pour savoir avec qui est-ce que nous vivons. Quels sont les endroits que nous devons fréquenter? Parce que nous sommes devenus un peuple mis à part. Nous ne pouvons plus accepter d'être engouffrés ou entrer dans un milieu où on ne fait que le vol, le mensonge, les critiques. Et nous devons, non seulement que nous sommes déclarés justes, mais nous devons être dégagés de la responsabilité du mal. Le mal a beau appeler, on ne répond plus, parce qu'on est mort. Toutes les sollicitations, nous disons, nous sentons que maintenant nous sommes sollicités à un tel mal, nous disons non. Ce n'est plus ma vie, ce n'est plus mon domaine, ce n'est plus la vie de ma famille. Merci beaucoup, papa Thomas. Nous revenons encore, je vois la main levée. Sœur Rose, tu as encore quelque chose à dire?
Oui, papa. Bon, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me ramène encore au verset 1. Je ne sais pas, mais je dois parler quand même, parce que c'est le Saint-Esprit. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Non. Parce que si nous faisons ça, le péché là qu'on est, que Paul est en train de nous expliquer ici, c'est la vie de tous les jours. C'est le combat tous les jours. Mais ici, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, oh, là où le péché, moi-même j'ai déjà dit ça, oh, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Non. Non, ça c'est fouler la grâce de Dieu au pied. Dieu peut retirer sa grâce, hein? Il est libre. Donc, nous ne pouvons pas fouler la grâce de Dieu au pied. Et puis, ce que papa José venait de dire là sur le baptême. Le baptême, je vais vous dire mon expérience un peu avec notre Seigneur. J'étais petite, j'avais eu le baptême. Je ne savais pas c'était quoi, avec le goutte d'eau. Je ne savais pas si c'était quoi. Mais en grandissant, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Chaque fois qu'on faisait cet appel-là, je me mettais debout. Tellement la soif de Dieu, tellement la soif d'abandonner le péché. Je me mettais debout jusqu'à ce que j'avais eu la paix. J'avais compris maintenant si c'était quoi recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça. Et puis, pour le baptême, je continue pour le baptême. J'ai eu le baptême première fois par... pour la deuxième fois, dans le bassin, piscine. Hein. La troisième fois, je l'ai eu encore... Ah, non. Vraiment la paix, non. J'étais toujours... La paix, il n'y avait pas. Et puis, j'ai maintenant eu... quatrième maintenant, par l'eau qui coulait, hein, à la rivière. Ah, là maintenant, j'avais eu la paix. Je ne sais pas si c'était quoi, je ne sais pas en tout cas. Mais vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai eu le baptême par immersion, par dans la rivière. En tout cas, je ne sais pas, ça c'est le travail toujours du Saint-Esprit, qui fait chaque dans la vie de chaque personne. Vraiment, j'ai béni l'Éternel pour ça. Amen.
Amen.
Amen. Bon, merci pour ton expérience, ma sœur Rose. L'essentiel, c'est d'être complètement plongé pour disons, ont participé à la mort de notre Seigneur Jésus et d'être ressuscité en étant sorti des eaux. Merci beaucoup. Papa José, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Oui, merci. Je suis au verset 8. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Nous sommes convaincus pourquoi? Parce que le Seigneur a laissé son tombeau vide. Parce que le Seigneur est ressuscité. Parce que le Seigneur est vivant. Alors, comme lui est vivant, et que nous avons cru en lui, en sa mort, alors nous serons aussi vivants. Donc, c'est un encouragement que ce verset nous donne. Si jusque-là, nous avions quelques doutes, mais ce soir, le Seigneur nous dit que nous devons être convaincus que nous vivrons avec le Seigneur, parce que le Seigneur est vivant et que nous avons cru en lui, le vivant. Merci.
Merci beaucoup. Il est vraiment vivant. Les trois derniers versets, le verset 8 jusqu'au verset 11, nous sommes en train de conclure tout ce que nous avons vu depuis le début jusqu'à présent. Nous sommes en train, c'est pour cela que le verset 8 commence avec « Donc, nous sommes morts parce que nous avons cru et nous partageons sa vie. » Le verset 9 ajoute « Mais parce qu'il est ressuscité, des morts ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout son droit et tout son pouvoir. » Et il ajoute « La mort a été vaincue, mais il vit à jamais. Maintenant, il vit à jamais. » Nous sommes en train, en quelque sorte, de conclure tout ce que nous avons parlé du baptême, de la mort, de la résurrection, comment le péché n'a plus de pouvoir, comment nous ne pouvons plus vivre dans le péché en disant « Non, c'est la période de grâce, parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Nous, nous pouvons vivre comme nous voulons. » Ça, s'il y a d'autres confessions de foi de cette manière-là, vous voyez, et les fidèles, et les pasteurs, et tout le monde dans le péché parce que c'est la période de grâce. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nous devons réellement fuir le péché parce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché doit devenir un accident dans la vie de l'enfant de Dieu. Oui, Papa Gaston, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Pasteur, je voudrais aborder le verset 10.
OK.
Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Je vais interpeller pour qui je vis, pour qui je pose tel ou tel autre acte. Je vois les fanatiques d'une star, d'un joueur, des musiciens, parfois ils se battent, les musiciens n'est pas là, ils se battent parce qu'on a parlé du mal de sa vedette, de son idole. Les premiers chrétiens, d'autres parmi eux ont été décapités, lapidés, tués. Mais au lieu que ces gens reculent, c'était... Ils avançaient toujours, ils continuaient à annoncer la parole du Seigneur. Et Paul dira même que je n'ai point honte de l'évangile. Un cadavre n'a plus honte. On peut même le fouetter. Il n'a pas de sentiment, comme les frères venaient de le dire. Il ne sent rien. Donc, la seule chose qui les préoccupe, il vit pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre-là, il est vivant. Et il vit pour la gloire du Seigneur. Ses propres intérêts, sont déjà morts. Ses sentiments sont déjà morts. Il vit, c'est grâce à cette personne-là. Donc, toute sa vie ne dépend que de Dieu. Et c'est ce qui m'interpelle lorsque même je suis dans un milieu hostile à l'évangile. Mais je me pose, je vois, non, c'est interdit de ne pas annoncer Christ. Mais quand je regarde, je vis pour qui? Je vis pour ce Dieu. Alors, je dois parler. Parce que moi, je suis déjà mort. Alors, si je vis, c'est grâce à lui, je dois parler. Je ne prononce pas, je ne dis pas que je vais réagir par violence, mais j'annonce ce que Christ a fait, pourquoi il est mort et pourquoi il est ressuscité. Je ne saurais me taire parce que ce n'est plus moi. La peur n'a plus sa place, la honte n'a plus sa place, et cette honte-là, d'être mal jugé, n'a plus sa place. Je vis pour quelqu'un d'autre parce que c'est sa vie qui est à moi. Amen.
Amen, amen, amen.
Merci beaucoup, papa Gaston. La question au verset 10 est fondamentale. Christ est vivant et il vit pour Dieu. Pourquoi est-ce que moi je vis? Pour qui est-ce que je vis? Sur quoi est-ce que je concentre mes intérêts? Sur mes propres intérêts ou sur les intérêts de Christ? Ça doit vraiment beaucoup, beaucoup nous interpeller. Pour qui est-ce que nous vivons? Et même ce que le frère Gaston était en train de dire, oh, on a interdit de ne pas parler de Christ. On peut parler de Christ sans même ouvrir la bouche. Notre vie, c'est une lettre écrite pour Christ. Quand nous allons ouvrir la bouche pour témoigner, mais quand notre vie ne représente pas la lettre de Christ, tout ce que nous allons ouvrir la bouche n'est que du temps perdu. Mais quand notre vie reflète l'amour, reflète le pardon, reflète le respect du règlement, reflète les gens qui nous voient, ils voient réellement que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Christ. Les peu de mots que nous pouvons dire à une personne, ça va influencer sa vie. Mais si nous-mêmes, nous sommes toujours en retard au travail, nous ne pardonnons pas les gens, nous injurions les gens, notre vie est caractérisée par des critiques, nous faisons que critiquer tel, que là, ce n'est pas la vie de Christ. On peut témoigner Christ en parole, mais on peut témoigner aussi Christ par la qualité de sa vie.
Amen.
Merci beaucoup. Papa Thomas, tu as la parole.
Oui, bien-aimé, je suis au verset 6 et par rapport à 11. Il est dit au verset 6 que, en principe, notre vieille nature, elle a été crucifiée pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et le Christ lui-même va dire en Jean 8, 34, en vérité, je vous l'ai dit, quiconque commet le péché, c'est-à-dire pratique le péché, est esclave du péché. Donc, je constate qu'on est esclave toujours de quelque chose. Soit on est esclave du péché, soit on est serviteur de Dieu. Mais au fait, le mot service chez Dieu, c'est être son esclave, être celui qui le suit. Donc, je me demande, est-ce que je continue à pratiquer le péché? Parce que pratiquer le péché d'après Jésus-Christ, c'est être esclave au péché. Quiconque commet le péché, c'est-à-dire pratique le péché, est esclave du péché. C'est pourquoi le Seigneur dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu, vous, pratiquant du péché, vous, acteur de péché. » Donc, ne blaguons pas avec le péché, ne commettons pas le péché et pensez que je vais toujours confesser, il y a la grâce. Non, c'est lui qui pratique le péché, qui commet répétitivement le péché. D'après le Christ, il est esclave du péché. Et si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, rend cette personne-là libre, alors cette personne est réellement libre pour maintenant vivre pour Dieu. Mais nous ne pouvons pas vivre pour Dieu en parole. Mais notre vie est en train de servir quelqu'un. Soit on est esclave de ce péché, soit on est esclave du côté de Dieu pour le servir. Mais ça ne dépend pas de ce que je dis que Thomas, moi, je sers Dieu. Non. Ça dépend de la pratique réellement. Dieu peut déterminer si je suis esclave du péché ou son esclave à lui. Ce n'est pas en parole, mais c'est dans la pratique. Merci.
Amen. Donc, merci, Papa Thomas. C'est pas en disant aux gens que moi aussi, que vous voyez, je suis serviteur ou servante de Dieu. C'est par la qualité de sa vie qu'on doit voir qu'il est serviteur, qu'il est servante de Dieu, qu'elle est servante de Dieu. Donc, nous devons vraiment complètement bouleverser les données de notre façon de dire au monde que je suis serviteur de Dieu. C'est pas par les dire qu'on est serviteur de Dieu, c'est par le faire, c'est par la façon dont on vit qu'on doit réellement montrer au monde qu'on est en train de servir Dieu. Frères et sœurs, nous nous arrêtons là avec cette dernière intervention de notre frère Thomas. Nous devons savoir que la mort de Christ, il a effectivement achevé l'œuvre pour laquelle le Seigneur Dieu l'a envoyé sur la terre. Mais ceux qui vont l'accepter, ils sont incorporés dans cette mort. Mais il n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité pour que ceux qui vont l'accepter puissent ressusciter en nouveauté de vie avec lui. Voilà combien cette mort est importante, et nous ne devenons pas chrétiens par le baptême. Mais le baptême, le Seigneur a ordonné que ceux qui croiront, ils seront baptisés. Donc c'est encore, si nous n'avons jamais été baptisés, nous devons chercher une église évangélique pour nous faire baptiser. C'est important. Aujourd'hui, le baptême est en train de perdre son sens. Or que le baptême est important. C'est une façon de montrer au monde. C'est un témoignage public combien nous sommes enterrés avec Christ plutôt, en nous plongeant dans l'eau, et combien nous sommes ressuscités avec Christ, en nouveauté de vie avec Christ. Nous devons par là, comme le verset 11 est en train de nous montrer vraiment une belle conclusion, à vous de prendre la même attitude. Vous êtes mort pour le péché. Considérez-vous donc comme mort à l'égard du péché, à l'égard de ses appels, à l'égard de ses sollicitations. Votre relation avec lui est rompue. Le péché doit devenir un accident. La relation diplomatique avec le péché est rompue. Relation rompue. Mais regardez-vous maintenant comme vivant dans la communion. Et maintenant, cette communion, c'est une communion ininterrompue avec Christ. Voilà, frères et sœurs, nous nous arrêtons là et nous bénissons le Seigneur pour la richesse que nous avons acquise en étudiant la mort, la résurrection, le baptême, la vie nouvelle que nous devons témoigner au monde. Combien nous devons refuser toutes les sollicitations du péché. Nous devons changer de milieu, nous devons changer de langage, nous devons changer beaucoup, beaucoup de choses pour montrer que ce n'est plus ma vie, je suis mort, je suis cadavre, mais je suis ressuscité avec quelqu'un. Je dois mener une nouveauté de vie avec Christ. Voilà, tout à l'heure, nous étions en direct avec le frère et la sœur de North Carolina, de Québec et aussi d'Alberta, méditant avec nous en direct. Mais il y a eu une interruption avec Skype au milieu de la réunion. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Notre texte de demain, nous allons continuer dans le même sens. Toujours au chapitre 6, nous prendrons demain le verset 12 jusqu'au verset 23. Romains 6, du verset 12 jusqu'au verset 23. Voilà, nous nous arrêtons là et nous bénissons vraiment le Seigneur. Frère Albert.
Oui, frère.
Veuillez prier pour nous recommander la grâce du Seigneur.
Prions l'Éternel. Notre Dieu, nous te remercions ce soir, une autre soir dont ta grâce est manifestée dans nos vies, un autre soir dont ton amour, Père éternel, est palpable dans nos vies, du fait même, Seigneur, que tu puisses ait permis que tout un chacun de nous puisse retrouver autour, Seigneur Dieu, de cette parole, autour de cette assemblée de tes enfants, de tes choisis, de tes saints. Père, c'est une pire grâce de ta part. Personne d'entre nous, Père éternel, n'a la prétention de croire que par mérite. Mais nous savons humblement, Seigneur Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, que c'est ta grâce qui nous fait vivre. Oh, quelle merveille, Père éternel, de connaître que nous appartenons à un Dieu qui nous aime et qui nous a choisis avant même que nous soyons, avant même que nous fissions, Père éternel, et conçus dans le ventre de nos mères, qui nous connaissait par nos noms. Père, merci. Merci pour cette parole vivante. Merci pour cette parole qui nous démontre clairement ce soir comment nous devons être aujourd'hui jusqu'à l'éternité. On ne peut pas, Seigneur Dieu, marcher un pas dehors, un pas dedans. Ou soit on est vivant dans le Seigneur, ou soit on n'est pas vivant dans le Seigneur. Nous devons faire ce choix parce que nous ne pouvons pas être, Seigneur, tiède. Ce qui est tiède, Père éternel, ne te plaît pas. Nous devons être chauds dans le Seigneur. Ou sinon, nous sommes froids et alors nous devons reconnaître notre état tel que nous sommes et venir auprès de toi et se repentir sincèrement pour que nous puissions recouvrir cette vie que tu nous as donnée gracieusement par, Seigneur Dieu, ta mort à la croix. Mais Seigneur Dieu, ce qui nous réjouit davantage, que tu n'étais pas seulement mort, tu as été ressuscité et tu es vivant. Alors nous devons être vivants avec toi. Comme nous devions mourir dans le péché, nous devions ressusciter dans cette nouvelle vie et nous devons être vraiment vivants et pour tout en toi pour l'éternité. Merci ce soir que tu nous as dit qu'une fois tu étais mort et tu étais mort avec tout le péché. Et donc Seigneur Dieu, si nous acceptons cette vérité, nous n'avons pas droit de vivre autrement que de mourir une fois dans le monde et ne plus y revenir et vivre une fois pour toutes avec toi dans la vie éternelle, en marchant avec toi dans la sainteté. Merci notre Dieu. Nous prions que ce soir le Saint-Esprit puisse nous aider à marcher en accord avec toi. Quand nous sommes faibles, Père éternel, que le Saint-Esprit nous aide à voir l'œuvre de ta croix et croire dans la force, dans la conviction spirituelle, qu'avec cette aide spirituelle, nous pouvons toujours faire de mieux en mieux dans le Seigneur. Ô Seigneur Dieu, nous voulons aussi être non simplement des vivants, mais aussi des vivants qui parlent, des vivants qui annoncent la bonne nouvelle, qui démontrent au monde que nous sommes réellement vivants et que nous produisons des fruits spirituels. Et ces fruits-là, qui doivent apporter à notre Dieu la joie. Nous devons être ces gens qui vivent pour le Seigneur. Et nous devons être des sacrifices vivants et agréables à notre Dieu, comme Paul nous l'exhorte dans le livre de Romains. Père, merci. Merci Seigneur Dieu que nous avons cet avantage, nous avons ce privilège. Mais aide-nous aussi, Père éternel, que nous puissions ne pas s'abuser de ce privilège et que nous puissions réellement comprendre que, Seigneur, comme une sœur l'a dit, que tu as aussi le pouvoir de l'écarter quand nous nous comportons mal. C'est pourquoi nous te demandons ce soir de continuer, Père éternel, à nous donner un cœur de reconnaissance, un cœur de gratitude vis-à-vis de toi, un cœur dévoué, un cœur, Père éternel, totalement abandonné à toi, pour que nous puissions, Père éternel, continuer à faire ton œuvre dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la joie pour ta gloire. Accompagne tout un chacun de nous. Père éternel, continue à nous sanctifier, continue à nous purifier. Que demain nous puissions encore nous retrouver ici, Père éternel, avec joie et avec force pour ta gloire. Et que ton nom soit élevé éternellement. Que tout un chacun de nous soit béni, Père éternel, selon la multitude et l'abondance de ta grâce pour l'éternité. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.
Amen. Amen. Merci Frère Albert pour la prière. Juste un rappel que le camp biblique s'annonce dans 3 mois, après, fin juillet, du 31 juillet au 3 août, et que le FIMES a besoin des contributions de tout le monde pour la réussite de ce camp. Vous pouvez appeler le frère Gaston, ou le frère Paul Bonny, si vous avez la contribution à donner pour ce camp. Le frère Gaston, le numéro, si vous en avez besoin, c'est le 819-557-1936. Donc je répète, 819-557-1936. Ou carrément appeler le frère Paul Bonny au 780-200-9944. Je répète, 780-200-9944. Donc, vous aurez une personne à qui vous pouvez donner votre contribution, parce que votre contribution est indispensable pour la réussite de ce camp. Les besoins sont énormes pour ce camp. Merci. Que la grâce de notre Seigneur Jésus nous abonde et nous accompagne, et que la paix du Seigneur Jésus abonde dans nos maisons. Amen.
Amen.